partie du discernement des signes des temps aussi, des temps passés comme des temps présents. Donc sur ce point je suis d'accord, et je suis d'accord aussi avec ce que vous suggérez en disant que Dieu est merveilleusement plus sage que nous. Nous aurions voulu des instructions détaillées, des réponses à toutes nos questions. Mais s'il les avait données, au lieu d'adopter la technique plus elliptique et allusive qui a été la sienne dans les Écritures, nous en aurions certainement fait un mauvais usage. Nous en aurions tiré... ça aurait été de notre faute, mais nous l'aurions fait. Nous en aurions tiré des prétextes à la sclérose, au piétinement. Nous aurions corrompu ces dons, et Dieu a jugé, je crois, que ce qui était le plus pédagogique pour nous, qui correspondait le mieux aux équilibres qui nous conviennent dans notre situation de créature rachetée, mais encore pécheresse, etc., c'était cette forme-là.
D'ailleurs, là, nous sommes encore l'intégrisme à
la vie. Mm-hmm. Oui, mais oui, mais oui. Oui, il aurait pu être 10 fois pire encore si le Seigneur avait adopté une autre forme dans sa communication. Oui, monsieur Galarato.
Donc, quand même, c'est ce que vous avez dit au sujet des êtres pastorales.
Oui.
C'est les seuls qui vivent comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Mm-hmm. Et là, vous avez mis à doute. Est-ce que véritablement.
Oui, alors.
Pourquoi l'intervention?
Oui. Alors là, je reprends encore. Et je pense bien que les pastorales nous sont très très précieuses dans le débat que nous ouvrons dans ce cours de l'université d'été. Je ne dis pas qu'il n'y a rien d'ailleurs, mais c'est vrai que les instructions les plus détaillées se trouvent, en particulier dans la première à Timothée, et puis dans l'épître à Tite aussi, chapitre 3 de la première à Timothée, chapitre 1er de Tite. Et si nous éliminons ces épîtres, alors nous avons vraiment encore moins, vraiment très très peu d'indications néo-testamentaires. Deuxième commentaire en réponse à ce que vous avez dit, moi je ne mets pas en doute. Je suis heureux que des spécialistes évangéliques combattent pour l'authenticité des épîtres pastorales. Je crois qu'ils font un travail convaincant, que notre foi est engagée. Ce n'est pas une affaire simplement d'érudition et d'intelligence critique. C'est ma fidélité au Seigneur qui, je crois, est en cause. C'est comme ça que je le vois, donc je ne mets pas en doute du tout. Mais il me semblait nécessaire de vous avertir que c'est mis en doute très largement autour de nous. Et donc que nous avons à faire face lucidement à cette difficulté supplémentaire de notre sujet. Bon, je peux dire que je l'ai éprouvé, cette difficulté, de manière personnelle un peu plus vive dans le travail de la révision de la Bible à la colombe et de la préparation de la Bible d'études. J'ai rédigé le premier jet de l'introduction pastorale, qui a été repris parce qu'aucun des textes n'est simplement l'émanation d'un seul d'entre nous. Et notre but, c'est de faire des textes qui soient acceptables, à gauche comme à droite, droite comme à gauche, par ceux qui ont des convictions différentes. C'est pas facile, toujours. Eh bien, sur cette question-là, j'ai essayé d'être le plus sage, le plus prudent, le plus rigoureux possible, mais il y a eu des réactions. Et de lecteurs, professeurs de Nouveau Testament à qui on a remis les textes pour avis, qui ont réagi, hein, parce que malgré la prudence que j'ai pu avoir, il y en a qui ne tolèrent pas, hein, l'idée que ce puisse être authentique, c'était trop énorme pour eux. Eh oui. C'est la situation dans laquelle nous sommes, mais le Seigneur nous permet de faire face à aucune tentation, même académique, que ne nous survient, qu'il ne soit humaine. Et le Seigneur nous donne, avec les frères et sœurs éminents qui travaillent ces questions, les moyens donc de résister à la tentation.
que la canonicité des écrits n'est pas remise en cause.
Non, la canonicité des écrits n'est pas remise en cause parce qu'elle est évidente. Je dirais pour les pastorales en particulier, c'est avec une autre épître, les épîtres les plus citées de tout le corps des épîtres de Paul dans les siècles qui ont suivi, dans les deux ou trois siècles des pères de l'Église. Elles sont énormément citées. Et comme de Paul, toujours. Hein. Donc vraiment, elles ont été canoniques pour tout le monde à ce moment-là. Mais pour des théologiens libéraux, la canonicité ne veut pas dire grand-chose, il faut le reconnaître. La différence entre un texte canonique et un texte qui ne l'est pas n'est importante que pour quelqu'un qui donne au texte canonique la valeur de la parole de Dieu même. Oui. Mais autrement, c'est un document de l'Église prime, de l'Église ancienne. Il a une valeur historique, c'est sûr, mais il ne peut pas s'imposer à la foi, donc la différence tend à se réduire. Voilà, nous avons atteint l'heure, donc même si nous avons commencé avec un peu de retard, donc je crois que le moment est venu de... nous aider dans notre travail et progression. Je dis Nal de nous conduire dans la prière après que j'aurai fait la lecture. Donc, premier épître de Pierre, je lis d'abord au chapitre 4, les versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est une citation du livre des Proverbes, et il ne faut sans doute pas la prendre dans le sens qu'il s'agit d'un mérite qu'on s'acquiert et qui constituerait une satisfaction pour les péchés. D'après le contexte dans le livre des Proverbes, il s'agit de l'attitude opposée de celui qui ranime des feux qui s'éteignaient, qui excite à nouveau de vieilles querelles, qui exhume des affaires. L'amour couvre dans le sens qu'il ne relance pas des choses qui pouvaient plus sombrement et plus utilement être laissées de côté. L'amour couvre une multitude de péchés, c'est donc l'expression d'une indulgence et du pardon même entre frères et sœurs. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, ça c'est le verset qui entame notre sujet, et c'est le mot charisma qui est employé dans l'original, donc une gratuité du Seigneur, une concrétisation de la grâce de Dieu, qui se dit charis en grec. Donc, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Il est intéressant de relever des rapports avec le vocabulaire de l'Épître aux Éphésiens dans le passage qui vient d'être relu, nous l'avions lu ensemble. La grâce si diverse de Dieu, c'est la même racine que la sagesse infiniment variée de Dieu qui peut être perçue par les puissances et dominations célestes par le moyen de l'Église. Ce terme dont j'ai dit qu'il évoquait les couleurs variées, que certains en tout cas disaient qu'on pouvait le traduire bariolé, multicolore, c'est le même mot qui est employé ici. Dans l'Épître aux Éphésiens, il y a un préfixe de renforcement en plus, mais c'est le même mot. Et puis nous avons aussi le terme d'intendant qui correspond, c'est le terme oikonomos, économe, qui correspond au terme caractéristique d'Éphésiens 3, où Paul parle de l'économie qui lui a été confiée. Ça a été traduit dans la Bible du Sommer, lu tout à l'heure, la responsabilité qui m'a été confiée. Et puis encore plus loin, dans le même passage d'Éphésiens 3, ce terme d'économie est employé. Et puis alors il y a le terme de service, nous servant mutuellement, comme de bons intendants économes de la grâce multicolore bariolée de Dieu, ce mot de service qui est le mot de ministère. Donc, mettez-les au service les uns des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Très brièvement, si quelqu'un parle, comme les oracles de Dieu. Littéralement. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Là aussi, c'est un peu plus bref. Comme par la force que Dieu accorde, que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors suivent des versets qui évoquent la persécution, l'effet purificateur sur l'Église qu'elle doit avoir, et puis au verset premier du chapitre 5, Pierre continue avec le thème des ministères, donc je lis encore les premiers versets de ce chapitre 5. « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. » Ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Tyranniser, c'est un mot qui vient du terme, qui est formé sur le terme habituel pour seigneur. C'est dominer, mais avec un préfixe de renforcement là aussi, en faisant les petits seigneurs sur le troupeau qui vous a été confié. Et lorsque le souverain pasteur, l'archiberger, c'est le préfixe archi auquel nous sommes habitués, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Alors, nous y reviendrons peut-être à un autre moment dans l'ensemble du cours. Ce que je fais remarquer, c'est que nous avons deux comparatifs, en fait, dans l'original. Il y a les plus jeunes et les plus anciens, plus âgés. Le terme traduit « ancien » à la première ligne, comme ici au verset 5, est en fait un comparatif. Les plus âgés. Et ils sont opposés, là, deux comparatifs de termes qui font la paire, aux plus jeunes. Donc, de même, vous les plus jeunes, soyez soumis aux plus anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Jusqu'ici notre lecture, et nous prions maintenant ensemble le Seigneur, si M. Dinal veut nous conduire. J'ai intitulé notre troisième étude, comme vous avez pu le voir, « La bipolarité du champ ministériel ». Comparant l'ensemble des choses qui nous sont enseignées sur les ministères, et appelant tout cela le champ ministériel, je remarque qu'il y a une grande dualité qui l'organise et qu'il vaut la peine, avant d'étudier tel ou tel ministère particulier, ou tenter de le cerner, de considérer cette disposition. Les doctrines et pratiques des églises, là je parle de toutes les églises de la chrétienté, aussi bien que les données bibliques, semblent se répartir selon l'attraction de deux pôles opposés, et j'ai choisi deux paires de termes pour suggérer ce que représentent ces deux pôles. Au stade introductif, là, reste encore assez vague, je ne sais pas si ça sera moins vague par la suite, mais on peut parler d'ordre et de fonction. Il y a le pôle qui correspond à ce qu'évoque le terme d'ordre, en particulier dans son usage pour les ministères, au long de l'histoire de l'Église. Et puis ce que le mot fonction, qui est plus simple à comprendre, implique de son côté. On peut encore parler d'institution et de charisme. Le mot charisme étant employé lorsqu'on l'oppose fortement à l'institution, avec des connotations plutôt modernes, liant l'idée de charisme à une répartition selon la pure liberté de l'esprit, avec un élément d'imprévisibilité qui l'oppose à la fixité bien réglée de l'institution. Je signale que dans l'après-guerre, donc ça remonte maintenant quand même à quelques décennies, dans l'après-guerre d'après Deuxième Guerre mondiale, notre protestantisme francophone avait été très marqué par un ouvrage du professeur Lebas, de la faculté de théologie de Neuchâtel, intitulé « L'institution et l'événement ». Ce n'était pas l'institution et le charisme, mais tout le livre était bâti autour de l'antithèse de l'institution, représentant l'ordre objectif, continu, permanent, et puis l'événement, le surgissement plus ou moins inattendu, laissé à la liberté de l'esprit, la liberté de la grâce de Dieu, etc. Et toute la perception du Nouveau Testament que proposait Jean-Louis Lebas était déterminée par cette dualité, et ensuite, je pense, bien des perspectives sur l'histoire de l'Église, et cette paire de termes a eu beaucoup de succès à l'époque. Beaucoup d'esprits en ont été marqués. Il y a quelque chose de très commode dans les oppositions binaires. Notre intelligence, comme les ordinateurs, fonctionne facilement avec une logique binaire. Donc, lorsqu'il y a deux termes qui s'opposent, nous nous sentons à l'aise. Parfois, nous aimons un petit peu nuancer et compliquer avec un troisième terme. Dès que ça dépasse trois, notre intelligence sent que les choses commencent à lui échapper. C'est très, très désagréable. Si vous devez analyser une question délicate en utilisant à la fois une douzaine ou une quinzaine de critères déterminants, vous y perdez complètement. Ça devient le brouillard. Nous ne fonctionnons pas avec un trop grand nombre d'éléments. Alors nous essayons de répartir en deux, parfois trois, à la rigueur quatre secteurs bien déterminés. Et donc l'institution et l'événement a constitué une bipolarité très, très, très populaire pendant au moins un certain temps de la théologie francophone. Je reprends en quelque sorte la chose, mais en l'adaptant à la question des ministères, à la question de la doctrine de l'Église. Bipolarité du champ ecclésiastique, de ce que les Églises ont fait et dit des ministères. La gamme est complète d'un pôle à l'autre. Vous avez des Églises qui ne pensent qu'en termes d'ordre ou d'institution lorsqu'il s'agit des ministères, ou pratiquement, il ne semble pas que ces églises aient en vue autre chose, et des églises qui semblent refuser complètement l'idée d'ordre et d'institution au profit d'une liberté de type fonctionnel ou charismatique. Alors on appelle tendance catholique, et ce n'est pas injustifié, la tendance qui se porte vers le pôle institutionnel. L'Église a été conçue au moins pendant très très longtemps par la théologie catholique, par le catholicisme en général, comme une institution. Depuis les années 50 et avec la consécration de Vatican II, l'idée que l'Église est le peuple de Dieu, est une communion, a fait beaucoup de chemin. Elle est devenue aussi une idée importante pour les catholiques du XXe siècle. Mais auparavant, on y pensait guère. Congar, le père Congar, devenu cardinal peu avant sa mort, le père Congar disait, les Français disent l'Église comme ils disent le gouvernement. Pour le catholicisme ancien, c'était bien le cas. Illustration de cette tendance à penser en termes d'institution, d'ordre objectif établi. Et encore aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de la doctrine des ministères, la théologie catholique met l'accent sur le statut sacral, pourrait-on dire, de ces divers ministères. Le schéma qui est au cœur de l'affaire, c'est le schéma du triple ministère, hiérarchisé, qui a émergé au deuxième siècle de l'histoire de l'Église, comme je l'ai déjà signalé l'autre jour, et qui s'est établi progressivement en plusieurs siècles. Au plus bas niveau de la hiérarchie, vous avez le diacre. C'est déjà un ministre officiel de l'Église. Alors, vous pouvez avoir des distinctions hiérarchiques, un archidiacre, par exemple, mais vous avez comme premier degré, essentiellement, celui du diacre. Au-dessus de lui, il y a clairement là une pyramide, une échelle, vous avez le prêtre. Le prêtre qui reçoit le sacrement de l'ordre. Entrer dans la prêtrise s'appelle l'ordination. Le mot ordination vient du mot ordre. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, mais non, je le dis dès maintenant. À propos de cette notion de l'ordre comme caractérisant la prêtrise, le deuxième degré dans cette hiérarchie, Sri Lebex a mis en valeur l'influence d'un concept pas du tout biblique, même pas grec, mais spécifiquement romain, celui de l'ordo, le terme latin pour ordre, dans la société romaine. Sri Lebex, je prononce correctement, ce nom à coucher dehors est un nom donc de type hollandais, il se prononce comme ça. Sri Lebex, donc Edward Sri Lebex, est un théologien de grande influence qui a fait l'objet d'enquêtes à diverses reprises de Rome. C'est un moderniste extrême. Il a commencé un peu comme tout le monde à cette époque, comme un thomiste, un disciple de saint Thomas d'Aquin, progressiste, ouvert, mais encore fort modéré, à la fin des années 40 au début, et dans les années 50. Et alors que certains restaient là, le père Congar par exemple, lui il a continué d'évoluer dans le sens d'une ouverture toujours plus grande au courant de pensée contemporain, et il est devenu un avocat particulièrement influent des tendances les plus modernistes. Sur la résurrection de Jésus, vous savez, il ne reste vraiment pas grand-chose de substantiel et d'objectif. C'est un sujet qu'il a traité. Mais ce modernisme, lorsqu'il l'a appliqué à l'étude des ministères, dans un ouvrage qui a fait pas mal de bruit, que je cite dans la bibliographie, le ministère dans l'Église, a curieusement conduit à un rapprochement avec les thèses des chrétiens évangéliques, en particulier des professants, à propos du sacerdoce, de la prêtrise, etc. Et oui, là, il a découvert avec son enquête scientifique autonome ce que nous disons depuis longtemps. Et il l'a fait assez brillamment. Bien sûr, ça n'a pas plu à Rome. Et je cite dans la bibliographie une réplique du père Grelot, qui, assez souvent à l'Institut catholique à Paris, s'est chargé de répliquer aux hétérodoxes les plus extrêmes, mais à la mesure de leur succès. Sri Lebex nous est un allié, assez paradoxal, il faut bien le dire, mais sur la question des ministères. il a vu des choses extrêmement, extrêmement claires. Moi, j'ai mes notes ici de mon livre, et puis j'ai parsemé mes notes de bien, très bien. C'est comme ça que je fais quand je prends des notes. C'est vous dire que... Et alors, dans... bien, je vous cite simplement une des choses qui m'ont réjoui. Il dit à propos des tout débuts de l'Église des apôtres, le ministère ne s'est pas développé autour de l'Eucharistie ou de la liturgie, ce qui est l'idée habituelle des catholiques, mais autour de la construction apostolique de la communauté par la prédication, l'exhortation et la direction, et cela à tous les stades du Nouveau Testament. Ce fait est remarquable. Fin de citation. Ah oui, on ne peut pas souhaiter mieux. Et alors, il a montré comment, surtout au IIIe siècle, le concept romain d'ordo a été très influent pour la conception qu'on s'est faite des ministères. Il dit que l'ordination, l'ordinatio, en latin, qui était l'entrée dans un ordre, était l'expression classique pour parler des nominations de fonctionnaires impériaux, et surtout du roi ou de l'empereur lui-même. L'ordo dans l'Empire désignait souvent l'état social. Il y avait l'ordre sénatorial, l'ordre équestre des chevaliers, et être ordonné, c'était devenir chevalier, ordinari. Et cette conception de l'ordre a finalement déteint sur la conception de l'Église. Donc le deuxième degré dans la hiérarchie catholique, c'est le degré des prêtres. Alors le mot prêtre est la simple contraction en français du mot presbyteros, presbytre, qui est le mot traduit ancien dans le Nouveau Testament. Le mot sur lequel j'ai attiré votre attention déjà tout à l'heure, en disant c'est un comparatif, presbyteros, eros, c'est l'indication du comparatif le plus ancien qu'un autre. Ce mot qui est passé transcrit simplement en latin, il n'a pas été traduit, mais simplement transcrit, a été prononcé de plus en plus vite, et finalement en français, il a donné le mot prêtre. Donc le deuxième degré, c'est celui-là dans le système catholique, et il a été lié, contrairement à ce qui était le cas au commencement, Sri Lebeck l'a bien dit, il a été lié à la célébration de l'Eucharistie, de manière de plus en plus étroite. Le sacrement de l'ordre donne la puissance sacrale de célébrer la messe. Sans cela, pas de messe possible. Je me rappelle que mon père, qui avait eu de très nombreuses discussions dans son camp de prisonniers avec de nombreux prêtres de théologie catholique, qui étaient officiers prisonniers comme lui, évoquait une conversation où il disait, il avait dit à un catholique, mais imaginez que la situation où finalement il n'y ait plus aucun prêtre au monde, où ils étaient tous étaient détruits, une bombe sur l'aula de Saint-Pierre au moment d'un concile, puis des accidents partout, plus un seul prêtre. Et qu'est-ce qui se passe? Dramatique, puisque l'Eucharistie est au cœur de toute la piété, de toute la vie spirituelle catholique, c'est le canal des grâces par excellence. L'interlocuteur de mon père disant non, ce n'est pas pensable, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas laisser se produire pareille chose. Puisqu'il a promis que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre l'Église, et que l'Eucharistie est centrale à l'Église, et qu'il faut un prêtre pour célébrer l'Eucharistie, donc il n'est pas pensable que Dieu laisse disparaître totalement tous les prêtres jusqu'au dernier. Donc, c'est le deuxième degré, et puis... Le troisième degré, donc, au sommet de la hiérarchie, c'est l'évêque, épiscopos. Là, le mot aussi a été prononcé de plus en plus vite en français pour donner évêque. L'évêque étant le responsable de la communauté et n'ayant pas dans cette hiérarchie de l'ordre des ministères de degré supérieur. Il est au sommet, l'évêque. Et quant à l'Église universelle, c'est le collège des évêques qui est investi de la responsabilité pastorale. Il y a certes des archevêques, des patriarches qui se sont mis en place un peu plus tard dans l'Église ancienne. Ça date du 4e siècle, si je me rappelle bien. Mais c'est une distinction fonctionnelle. Et puis il y a bien un privilège qui est dévolu à l'évêque de Rome, mais en tant qu'évêque de Rome, en tant qu'évêque. Pas comme un 4e niveau de hiérarchie. C'est en tant qu'évêque de Rome qu'il hérite des prérogatives de Pierre, qu'il est en quelque sorte en sa personne comme le concentré de toute la collégialité épiscopale. Les évêques sont les successeurs des apôtres, c'est la succession apostolique. Ils ont ensemble la responsabilité de conduire toute l'Église et de garder le dépôt de la foi. Et le pape, évêque de Rome, est celui en qui se résume en quelque sorte la fonction épiscopale. Parmi ses frères évêques, il a le rôle premier et dernier. C'est en fonction des choses dites à Pierre que l'apologétique catholique romaine défend ce point. Affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, Pierre a un rôle à l'égard de ses collègues. Et ce rôle passe au successeur. Pierre a été évêque de Rome, donc les évêques de Rome héritent de cette fonction. Mais c'est en tant qu'évêque de Rome. Je crois qu'il faut bien le comprendre pour suivre les débats au sein du catholicisme. C'est en tant qu'évêque de Rome, et les cardinaux, par exemple, ce sont des responsables des paroisses de Rome, en théorie. Il leur est attribué diverses paroisses de Rome. Je ne sais plus maintenant leur titre exact. Ce sont des chanoines. Je ne peux plus vous le dire, excusez-moi. Mais ce que je sais, c'est qu'ils correspondent comme électeurs du pape à, c'est une sorte de fiction qui subsiste, à des éléments de son diocèse à Rome. Il n'est pas l'élu de l'Église universelle comme s'il y avait un parlement de tous les diocèses du monde qui élirait le chef. Non, non, il est l'évêque de Rome, et les cardinaux, même s'ils représentent de fait toutes les grandes régions de l'Église, sont censés voter en tant que chanoine ou quelque chose de semblable du diocèse romain. Ce point, pour clarifier éventuellement nos idées, mais surtout pour montrer que le ministère est triple, non pas quadruple, dans le schéma de la théologie romaine. Alors, il me semble suffisamment clair que l'accent se porte essentiellement sur les aspects d'institution, d'ordre avec toutes les connotations latines du terme. Je signale que l'idée de la liberté charismatique n'est pas absente quand même. Elle est moins appliquée au ministère, mais quand même, il est clair dans la théologie romaine qu'il y a des saints qui ont exercé un rôle tout à fait déterminant dans l'histoire de l'Église, qui se sont situés tout à fait en marge de cet ordre des ministères établis. Il y a quand même un équilibre qui se crée dans la pensée catholique. Il est indispensable à la vie de l'Église qu'il y ait cette grande structure instituée, et c'est par elle que la grâce sacramentelle est communiquée, mais on reconnaît en même temps que les personnes qui occupent ces positions clés, qui sont ordonnées dans cet ordre peuvent n'avoir de valeur spirituelle personnelle que minimale. Pour un catholique, bien au clair dans sa doctrine, qu'il y ait eu des papes débauchés, les Borgia et compagnie, ce n'est pas agréable à savoir, mais ce n'est pas un démenti de la doctrine. Oui, parce que la sainteté personnelle, c'est une toute autre affaire que cette grande hiérarchie. Et la sainteté personnelle est non seulement importante pour le salut de l'individu en cause, mais aussi pour un certain rayonnement dans l'Église. Lorsqu'ils canonisent des saints, ces saints peuvent être des laïcs, non ministres. Et en particulier, de nombreuses femmes qui n'ont pas eu part à ce triple ministère ordonné sont considérées comme ayant eu une importance capitale, et la référence est fréquente, et les deux Saintes Thérèse et Sainte Catherine de Sienne, etc. Ce sont des références très importantes aussi dans la vie concrète du catholicisme. Et Marie est parfois présentée comme la concrétisation suprême de ce qui n'est pas ministère objectivement ordonné du côté institutionnel, mais comme ce qui est plénitude charismatique. Marie, c'est la sainteté, mais ce n'est pas cette structure sacrale. Là, elle n'en était pas, elle ne pouvait pas, puisque c'était une femme. Mais elle a eu le privilège suprême d'être la mère de Dieu, et elle a été pure de tout péché, et elle a eu tous les charismes. Vous voyez comment les choses sont présentées dans la théologie romaine. À l'opposé, à l'autre pôle, nous avons la tendance que j'appelle la tendance des frères, avec des guillemets. Bien sûr, ce sont des frères pour nous, sans guillemets aussi, mais j'évoque la tendance qui, dans nos pays en particulier, est représentée par ce qu'on a appelé assemblée de frères. Aujourd'hui, il ne s'appelle plus Assemblée de Frères en France, mais Assemblée de France. Le F a changé de signification dans le sigle KF, les communautés et assemblées. Disons, tant plus sensible à la question féministe, oblige. Mais on dit encore les frères, ce mouvement donc il s'est développé avec des antécédents, mais qui s'est développé essentiellement à partir de la première partie du 19e siècle, première moitié du 19e siècle, des années 20 et 30. Il y a d'ailleurs des articles extrêmement intéressants de Monsieur Bory dans les derniers numéros de Servir en attendant, la revue des assemblées en France actuellement, sur les origines historiques. Donc ce mouvement qui s'est développé à partir de l'influence de Darby spécialement, mais d'autres aussi, Newton et George Müller et d'autres, se situe sans doute du point de vue de la doctrine et de la pratique des ministères au pôle opposé. Une très grande méfiance à l'égard de toute institution, toute idée d'un ministère établi, régulier, qui correspondrait à certains pouvoirs, et l'accent sur la liberté de l'esprit, sur des fonctions que Dieu donne la force de remplir, d'assumer dans l'Église avec des dons correspondants, mais sans rien qui soit réglé, fixé. Je pense que je discerne historiquement deux ressorts principaux. Le ressort qui, je pense, joue encore aujourd'hui beaucoup, c'est une méfiance à l'égard du cléricalisme, figer la manière dont il fonctionne et la tendance de ceux qui exercent le pouvoir à un moment donné de le consolider, de le garder pour eux, de l'accaparer de plus en plus. Je crois qu'il y a une réaction contre ce qui est apparu comme une monarchie pastorale. Il y a simplement le pasteur qui parle, qui fait tout, et puis les petits moutons du troupeau ne sont là que pour ouvrir la bouche et les oreilles, pour recevoir ce qui leur est destiné. Puis c'est tout. Pas voix au chapitre. C'est le chapitre des chanoines, d'ailleurs. Donc, vous avez une réaction, me semble-t-il, contre une évolution qui s'observe dans beaucoup de sociétés humaines. Une contestation au nom de la fraternité. Il y a parfois un petit peu d'anarchisme qui s'y mêle. Un anarchisme doux et pieux, mais anarchisme quand même. Hein. On ne veut pas d'un pouvoir établi. Et on peut citer Matthieu 23 dans ce sens. Hein. N'appelez personne sur la terre votre père, votre directeur, etc. Hein. Vous êtes tous frères. Ça, c'est un ressort qui, je crois, continue de jouer. L'autre ressort est beaucoup plus particulier, mais historiquement, il me semble avoir eu son importance, c'est la doctrine particulière de Darby, son interprétation de l'histoire de l'Église. Darby, en fait, avait une idée très institutionnelle de l'Église. Il était anglican d'origine, et il était quasiment catholicisant dans sa manière de concevoir l'ordre ecclésiastique. Mais il a conclu que la dispensation de l'Église, comme toutes les autres, devait être marquée par l'échec. C'est une de ses grandes idées à propos du plan de Dieu dont il a été question déjà ce matin, que Dieu, à chaque période de l'histoire, appelée dispensation, s'arrange en quelque sorte pour que l'échec de tout ce qui est offert à l'homme soit patent. C'est une manière de démontrer pour Dieu l'incurable peccabilité, imprégnation par le péché de l'humanité. Quel que soit le système que Dieu adopte, on essaye l'un après l'autre, c'est toujours l'échec à cause du péché des hommes. Et alors dans la dispensation de l'Église, c'est aussi l'échec. Correspond au texte qui évoque l'apostasie, d'ailleurs, pour lui. Et il a conclu que cet échec s'est déjà produit, en fait, dans les siècles de la chrétienté, que l'Église est en ruine, c'est le thème qu'il a élaboré. Par rapport à l'Église qui a été fondée, instituée, il n'y a plus que des ruines, elle est devenue apostate. Alors il y a encore des, par la grâce de Dieu, des croyants, des fidèles, des frères, des sœurs. Mais c'est plus l'Église, avec majuscule, conçue comme une institution. Il n'y a plus que des assemblées. L'accent qui était très fort au début du mouvement des frères, maintenant il ne l'est plus, mais sur la distinction entre assemblée et Église, alors que les deux termes sont censés rendre le même mot dans l'original, remonte à cette opposition chez Darby. L'Église, qu'il concevait comme une institution, c'est fini par rapport à l'approbation de Dieu. Les vrais croyants doivent s'en retirer et se réunir en groupe qui attendent le retour du Seigneur, qui est très proche, en célébrant ensemble la Sainte-Seine, et en s'exhortant mutuellement, mais ce n'est plus la grande structure, ça c'est fini. Vous voyez comment la lecture de l'histoire de l'Église, et plus que l'Église, a influencé sur cette question des ministères. Alors il y a un certain flou, à mon avis, quant au rôle exact des anciens. Dans ces assemblées où il n'y a plus les grands ministères institutionnels, est-ce qu'il y a encore quand même des ministères qu'on reconnaît spécialement? Là, il y a eu un certain flottement et des tensions. Oui, des anciens quand même. Non, chez d'autres, ne les appelons pas anciens, ne les mettons pas à part. Il me semble que, si je suis bien informé, mais parmi vous, certains le sont peut-être mieux que moi, il y a eu un certain flottement. Mais il est clair que c'est une tendance qui va à l'encontre de la tendance du catholicisme, que nous avons l'autre pôle. Et alors, entre les deux, bien sûr, des positions intermédiaires. Vous avez, et parmi les chrétiens évangéliques, je dirais un peu toutes les positions intermédiaires. La réforme de Luther, Zwingli, Calvin, qu'on appelle la réforme magistérielle, parce qu'elle s'est faite avec l'aide des magistrats, des princes, des magistrats des villes, etc. La réforme magistérielle a rejeté la thèse catholique romaine sur bien des points, en particulier sur l'idée d'un sacerdoce séparé. Et l'étendard a été brandi du sacerdoce universel. Tous les fidèles sont des prêtres d'après le Nouveau Testament, des prêtres au sens sacerdotal. Mais tout en rejetant donc la thèse catholique, je crois qu'on peut dire que la réforme de Luther et Calvin, etc., a mis un fort accent sur l'institution, sur le pôle de l'ordre. Et le ministère qui a été considéré comme institué par Dieu est pourvu de pouvoir au sein de l'Église, indubitable, incontestable, c'était le ministère pastoral. Dans beaucoup de confessions de foi, on a l'impression que ce qui est dit des ministères, c'est ce qui est dit du pastorat. Il y a le pasteur. Non seulement certaines tendances de la théologie luthérienne ou calviniste, ou zwinglienne, calviniste, ont joué, mais aussi la simple réalité sociologique, historique. Ce sont des catholiques qui se sont convertis, qui sont devenus luthériens ou calvinistes. Et par paroisse entière, et toute une région, et les curés devenaient les pasteurs. Du point de vue sociologique, dans beaucoup de pays, c'est comme ça que ça s'est passé. En Suisse romande, par exemple. Alors on comprend que le ministère pastoral qui était exercé par l'ancien curé est gardé quand même, quant au fonctionnement, bien des traits de l'ancien ministère du prêtre. Ça a été l'accent, à coup sûr, dans cette grande tradition magistérielle. Les églises de professants, à coup sûr, ont été beaucoup moins soucieuses de la continuité institutionnelle, de l'ordre établi, mais à des degrés variables. Je pense que la tradition baptiste, à laquelle je me rattache personnellement, comme la tradition libriste aussi, qui est issue plus tardivement du tronc réformé, ont quand même en gros gardé la même insistance sur le ministère pastoral. Et on pensait beaucoup plus en termes de régime établi comme par une loi divine, avec des personnes qui entrent dans ce ministère, qu'en termes de fonctions qui sont remplies selon que Dieu suscite librement, en quelque sorte, des personnes pour remplir ces fonctions. Mais il y a eu une évolution dans le sens d'un fonctionnalisme de plus en plus marqué. Je crois qu'on peut dire que même chez les baptistes ou libristes, qui ont été les plus proches de la tradition réformée à l'égard des ministères, en quelques générations, les choses ont pas mal changé. Elles changeaient du côté des frères, dans le sens d'une reconnaissance de plus en plus marquée de ministères de type pastoraux. Donc les frères allaient vers la tradition de la réforme magistérielle, et inversement, vous aviez une évolution en sens contraire et à la rencontre, en quelque sorte, du mouvement des frères, du côté baptiste ou libriste. Dans beaucoup d'églises évangéliques actuellement, je pense qu'on est dans une situation à peu près intermédiaire. Et ça ne me déplaît pas, vous allez vous en rendre compte par la suite. Avant d'en venir aux données bibliques et à la bipolarité dans le champ même de l'exégèse de l'étude biblique, je mentionne encore dans le canevas le document Baptême Eucharistie Ministère. Je ne vais pas en faire une étude développée, mais ce serait très intéressant. Si nous avions le temps, nous pourrions faire ça. Le document Baptême Eucharistie Ministère est l'un des textes les plus importants que le mouvement œcuménique, le mouvement œcuménique principal, celui du Conseil œcuménique, est produit. La commission Foi et Constitution, qui s'occupe des questions de doctrine et d'ordre ecclésial, le mot constitution traduit en français le mot order, ordre, dans le titre anglais de cette commission, qui fonctionne principalement en anglais, Faith and Order. Donc cette commission, qui est vraiment un département très important pour le Conseil œcuménique, s'est attachée sur des années et des années à travailler la question du baptême, de l'Eucharistie et des ministères, ces points divisant les églises entre elles. Et un texte a été produit à Lima, lors d'une rencontre de Foi et Constitution, qui a fait suite à beaucoup d'autres, en 1982. Ce texte a été intitulé « Baptême, Eucharistie, Ministère », et où on appelle le BEM, selon les initiales, tout le monde dit le BEM, le BEM. Il a été envoyé aux églises, il y a eu des réactions des églises, des commentaires, églises ou autres organisations. L'Alliance évangélique mondiale a elle-même suscité un groupe de travail pour faire le commentaire sur le BEM. J'ai eu à participer à ce travail. Nous avons fait des observations, puisqu'ils sollicitaient des réactions. Nous avons dit les nôtres. Ce BEM, donc, reflète la diversité des tendances au sein du mouvement représenté par le Conseil œcuménique des Églises, en incluant les catholiques romains aussi. Parce que si l'Église catholique romaine n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises, elle envoie ses représentants dans la commission Foi et Constitution. Et même, je crois que c'est le vice-président est catholique. Donc il y a eu implication très, très effective des théologiens catholiques dans la genèse et la rédaction finale de ce BEM. Avec en plus, en détail, la version française a été rédigée, adaptée par l'un des membres de Foi et Constitution. Je ne sais plus quel était son rang. Est-ce que s'il était vice-président aussi mais qui était membre à l'époque de Foi et Constitution comme pasteur de l'Église réformée de France, comme protestant. C'était le frère Max Turian, T-H-U-R-I-A-N, c'est dans la bibliographie, de Thésée. Mais alors, vous savez l'histoire. Un journaliste catholique, ou une journaliste catholique, a découvert le poteau rose, alors que Max Turian était membre de Foi et Constitution au titre du protestantisme. En fait, il était depuis un an ou 18 mois prêtre ordonné de l'Église catholique. Mais il avait gardé la chose, pensant que ce serait plus utile aux intérêts de la cause qu'il veut défendre, il avait gardé la chose secrète. Et les journalistes, qui bien sûr s'intéressent surtout aux choses qu'on voudrait garder secrètes, ont découvert la chose et ça fait quand même un petit scandale. Le scandale n'est pas qu'il soit devenu catholique, vous avez bien le droit, de toute façon il louchait de ce côté-là depuis longtemps, c'était évident dans ses livres. Le scandale n'est pas qu'il ait été membre de Foi et Constitution et prêtre de l'Église catholique, puisqu'il y en a d'autres, l'Église catholique participe. Mais le scandale quand même était que les choses n'aient pas été faites dans la transparence et qu'il ait été membre de cette commission au titre d'une église dans laquelle il n'était plus réellement. C'est ça qui n'était pas, semble-t-il, tout à fait conforme à la droiture qu'on attendrait d'un prêtre ou d'un pasteur. Alors, ce texte-là, dans sa partie sur les ministères, montre bien la gêne qui est celle des participants du dialogue œcuménique principal. C'est un texte de compromis où on sent les tiraillements, mais qui sont en quelque sorte à demi masqués. Le langage est volontairement ambigu, il y a bien des détours. Vous avez la distinction entre le texte principal et puis des commentaires qui n'ont pas la même autorité, mais qui sont quand même associés au texte principal. Vous lisez ça comme un syntaxe suivi. Et la tendance, globalement, en tout cas évaluée par protestant professant évangélique comme moi, c'est que ça tire très fort du côté catholicisant. Alors ce n'est pas simplement un texte qui exprimerait le point de vue catholicisant, non, non, il y a aussi des concessions qui sont faites à l'autre tendance, mais on sent le poids de la grande tradition catholique qui entraîne d'un côté plutôt que de l'autre. Et de manière générale, on doit dire que dans le protestantisme, le texte a été mal reçu, pas seulement par les évangéliques, mais de manière générale par les protestants. Les protestants francophones en particulier ont été très critiques dans leur réaction à ce texte lui-même. Donc il me semble intéressant de vous le signaler. Cette situation donc du champ ecclésiastique décrite, parlons bien sûr plus brièvement du champ exégétique. Les exégètes sont ceux qui étudient la Bible avec tous les moyens techniques, qui font de l'interprétation verset par verset. Ils ne sont guère plus d'accord que les églises, mais quand même, le sont davantage. Il y a des convergences qui sont apparues. Largement acquis, à mon avis, l'abandon du sacerdotalisme, c'est-à-dire de l'attribution aux anciens du Nouveau Testament, et de manière générale aux ministres de l'Église du Nouveau Testament, d'un caractère sacerdotal bien défini, bien marqué. Sri Lebex est extrême, qui dit carrément qu'il n'y a aucun aspect sacerdotal. Mais les théologiens catholiques responsables, il y a même un grelot qui lui répond, et d'autres aussi, le maire dans un autre livre que je cite en bibliographie, les théologiens catholiques reconnaissent de leur côté qu'en effet, les anciens ne sont pas des prêtres dans le Nouveau Testament. Que le titre de prêtre, en latin, sacerdos,
il y a le mot sacerdotal, puisque le mot presbytre, presbyteros, veut dire ancien. Le terme qui, en latin, veut dire vraiment prêtre, l'homme en charge des sacrifices, etc. Ce terme-là n'a été utilisé qu'à partir de la fin du deuxième siècle au troisième siècle pour l'évêque, et encore nettement plus tard, et d'abord à titre métaphorique, et encore nettement plus tard pour les presbytres, pour les prêtres, qui ont reçu une délégation de la part de l'évêque pour la célébration de l'Eucharistie, parce qu'au départ, c'était seul l'évêque qui pouvait célébrer l'Eucharistie. Et Ignace est virulent à ce propos, Ignace d'Antioche. Donc les catholiques aujourd'hui reconnaissent très largement que l'appellation sacerdos et la notion même d'un ministère sacerdotal à part n'est pas du Nouveau Testament. C'est une évolution qu'ils pourront considérer légitime, hein, mais une évolution plus tardive. Et il est devenu tout à fait courant, vous parlez à un catholique un peu informé, vous pourrez le vérifier, tout à fait courant dans l'Église romaine de parler du sacerdoce universel, de tous les fidèles, ou ils disent plus souvent de tous les baptisés, en disant, mais bien sûr, pas question de nier cela, c'est tout à fait biblique, sacerdoce universel. Donc par rapport à la situation de la vieille polémique des catholiques réagissant à la réforme, opposée à la réforme, les uns disant sacerdoce universel, les autres disant sacerdoce ministériel des prêtres, les choses ont bien changé. Là, il y a un progrès indubitable qui est acquis. Mais, cela dit, subsiste la bipolarité. Et il y a des arguments qui ne sont pas dépourvus de force en faveur des tendances qui portent vers l'un des pôles ou vers l'autre. Il y a de bons arguments en faveur de la thèse institutionnaliste. Je signale dans mon mini-paragraphe le nom de Jean-Jacques von Almen, qui me semble un très bon représentant de la tendance la plus institutionnaliste au sein de l'Église réformée. Von Almen, j'ai beaucoup de respect pour lui.
je le considère comme un homme qui a fait des choix juste opposés aux miens, sur bien des points, à propos des sacrements, et ce point qui concerne les ministères. Mais ces choix, il les a défendus avec beaucoup d'érudition, beaucoup de droiture, beaucoup de clarté. C'était un très bon théologien, professeur à la faculté de Neuchâtel, et en général, ses ouvrages sont remarquablement argumentés. Et, au sein de l'Église réformée, il a sans doute, ou des Églises réformées, mais c'est l'Église réformée du canton de Neuchâtel, il a sans doute représenté la tendance la plus catholicisante à son époque, mais sans les ambiguïtés, les équivoques, les jeux de mots, etc., que je peux reprocher à d'autres. Et son information est en général une information sûre, ce qui n'est pas le cas de tous. Je le dis aux étudiants tout au long de l'année, vérifiez les citations que font les auteurs, vérifiez les références qu'ils donnent. Vous avez parfois de drôles de surprises. Et on apprend assez vite, quand on les fréquente un certain temps, à discerner entre les auteurs. Il y a des auteurs fiables et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et von Almen, il est fiable. C'est sérieux. Alors, je ne conclue pas comme lui sur bien des points, mais je dis, voilà une thèse qui est solidement argumentée et droitement énoncée. Alors, von Almen a donc des arguments. Qu'est-ce qu'il y a comme argument en faveur de la thèse plus institutionnaliste? Eh bien, qu'il y a des titres dans le Nouveau Testament. Il y a des hommes qui s'appellent épiscopes, anciens, diacres. Ils le sont de façon permanente, on les a reconnus. Et il y a des conditions à remplir, 1 Timothée 3, si quelqu'un ambitionne l'épiscopat. Et c'est une œuvre excellente qu'il ambitionne, mais il faut que l'évêque soit ceci, ce, cela. Il est question de nommer ou faire nommer, d'instituer des anciens évêques. Chapitre 1er de l'épître à Tite, par exemple. Donc, c'est clair qu'il y a des hommes qui sont pourvus de titres, qui exercent une autorité, les conducteurs spirituels, c'est un autre terme employé, nous y reviendrons. Il y a les données que von Almen met en lumière sur l'office apostolique. La grande thèse de von Almen, et elle se défend, c'est qu'il y a finalement un seul ministère, le ministère d'apôtre. Le Seigneur institue ses apôtres. Quand à la question ministérielle pour l'édification de l'Église, c'est le fait majeur. Le Seigneur a toute autorité sur son Église, il a ses mandataires, les apôtres. Et tous les autres ministères, en fait, sont comme des reflets, plus ou moins fragmentaires, du ministère apostolique. Ce sont des participations au ministère apostolique après les apôtres. Or, le ministère apostolique a un caractère institutionnel indubitable. Là, ce qui est très important, c'est que Jésus est lui-même institué ses apôtres. On ne peut pas dire c'est juste une fonction qui est remplie au gré de la distribution des dons. Non, il y a quand même autre chose avec l'apôtre. Et le thème d'une autorité qui lui revient. Alors ça, c'est un argument qui a de la force du côté institutionnaliste. Et puis alors, du point de vue historique, mais ce n'est pas dépourvu de toute valeur pour l'exégèse, il y a le modèle de l'Ancien Testament. Dans notre réflexion méthodologique, lors de la dernière séance, j'ai évoqué ce porté qu'il est difficile d'apprécier exactement, que l'Ancien Testament doit recevoir dans l'étude des ministères. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de David. Or, il est sûr que dans l'Ancien Testament, c'est très, très institutionnel. Là, vraiment, les choses sont réglées, il y a des conditions d'accès. Donc, en tout cas, pour les prêtres, et Lévites qui les assistent, et pour les rois. Donc, nous avons quand même l'indication qu'il a plu à Dieu, dans une situation donnée au moins, d'opter pour un ministère de type très institutionnel, pour un ordre. Et bien sûr, le triple ministère de la tradition catholique est un décalque des trois degrés lévite, prêtre, grand prêtre. C'est sans doute ce qui a joué comme justification lorsque l'évêque s'est élevé au-dessus des presbytres, des presbyteroi. La corrélation a été faite, l'évêque c'est le grand prêtre, les presbytres ce sont les prêtres, et les diacres ce sont les lévites qui les assistent. Le schéma semblait tout à fait bien correspondre. Et est-ce que nous faisons bien de dire simplement « Oh non, il n'a aucune valeur, ce n'est plus l'Ancien Testament ?» Vous voyez, la question se pose. Il y a un argument quand même, du côté de la thèse institutionnaliste. Mais l'argumentaire opposé, fonctionnaliste, n'est pas non plus de peu de poids. Je pense qu'on peut dire que le Nouveau Testament, dans le climat que les textes suggèrent, ne semble pas s'intéresser du tout à ces questions de statut, d'ordre, de procédure, de rite d'introduction. Il y a un contraste avec l'Ancien Testament qui est saisissant. Il y a ces paroles de Matthieu 23 que j'évoquais tout à l'heure. Il y a la perspective d'un Corinthiens 12 que nous lirons en introduction d'une prochaine séance, mais où tout semble de type fonctionnel, ou presque tout en tout cas. C'est le corps. Le corps avec toutes ses fonctions, chacun a sa fonction, personne ne peut prétendre se passer des autres, et c'est la distribution des charismes ou des capacités spirituelles, comme Dieu le veut, selon la liberté de l'esprit. Voilà la perspective qui semble prédominer. Alors il est sûr qu'on peut s'interroger sur la diversité interne de l'Église néo-testamentaire. J'ai signalé cette difficulté de méthode. Que faut-il constater? Est-ce qu'il y a une très grande diversité? Si nous n'avions pas l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, nous aurions peut-être une image en tête de la vie de l'Église primitive, toute différente de celle que nous avons de fait. À cause des difficultés de Paul avec cette Église, il rentre dans le détail, on voit comment les cultes étaient vécus, etc. Donc, ça crée pour nous une image très forte. Mais en même temps, il n'est pas sûr que c'était partout la même chose. Est-ce que c'était très spécial à Corinthe ou pas? On peut s'interroger à ce propos. C'est là que mes questions de méthode interfèrent. Mais il reste qu'il y a quand même une perspective fonctionnaliste qui prédomine et la chose a été en particulier soulignée par un théologien réformé français de belle qualité. C'était aussi un homme droit, fin. C'était pas un évangélique strict, mais il est venu ici, par exemple. Il est mort prématurément, hélas. Il était professeur du Nouveau Testament à la faculté de Strasbourg, Max Alain Chevalier. Et lui, alors, dans son livre sur l'Esprit Saint et la Parole, dans l'Église ancienne, je ne sais pas si je l'ai mis en bibliographie, peut-être pas, mais c'est un livre assez technique, donc je ne l'ai pas mis. Pourquoi ? Et dans ce livre, il est très fonctionnaliste dans sa lecture de Paul, et en général du Nouveau Testament. Un argument très fort, qui est aussi repris par Banks dans un article que je signale en bibliographie, et qui me semble aller un peu trop loin, moi. Mais voilà, il est un bon exemple de l'argumentaire fonctionnaliste. C'est que lorsqu'il est question des difficultés dans l'Église, on s'attendrait à ce que Paul dise « Ah mais vous les anciens, vous devez prendre la chose en main, vous les conducteurs ». Pas du tout. L'Église rassemblée, toute l'Église rassemblée, vous devez juger, vous ôtez le méchant parmi vous. Les responsables ne sont pas mis en cause. C'est quand même très frappant. Il est question de la célébration de la scène, pas un mot sur qui doit présider. Il écrit à l'Église, il n'écrit pas, sauf l'épître aux Philippiens où les épiscopes et diacres sont spécialement mentionnés, mais en général il n'écrit pas. à des ministres. Vous n'imaginez pas cela dans un contexte catholicisant, où les ministres jouent un tel rôle avec leur statut propre, distingué de celui des simples fidèles. C'est l'ambiance, là, une ambiance qui pourrait être dite anachroniquement comme une ambiance démocratique. Donc, un argumentaire aussi très fort du côté fonctionnaliste. Alors, j'en arrive à ma bipolarité pour la réflexion dogmatique. Moi, dogmaticien, je laisse 2 minutes pour cette partie-là, mais vous pouvez, je pense, aussi comprendre ce que je veux dire. Je dénonce d'abord le piège de la symétrie. Bon, nous pensons commodément en termes de paires conceptuelles avec deux pôles, etc. Mais il faut toujours prendre du recul, se dire, est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que je ne déforme pas? En fait, est-ce que institution et charisme s'opposent? Est-ce qu'ordre et fonction s'opposent? C'est forcément l'un au détriment de l'autre? Non, finalement. Nous risquons d'être piégés en instituant nous une fausse symétrie d'opposition. En fait, en instituant un ministère, Dieu donne le charisme correspondant. C'est un charisme. L'ordre, il doit fonctionner. Les fonctions instituent un ordre, si en tout cas elles restent un peu permanentes. Donc, méfions-nous des oppositions qui finissent par instituer des oppositions inutiles. Tendance contextuelle, au fond j'en ai déjà un petit peu parlé, on peut essayer de voir quel est le climat, l'orientation globale du message biblique pour dire est-ce que ça va dans un sens ou dans l'autre. Et mon sentiment, c'est que le climat et les orientations fondamentales ne vont pas dans le sens catholique. À coup sûr, la notion du ministère qui a été établie dans le catholicisme est très liée au sacramentalisme, à l'idée que la grâce est communiquée par la célébration de rites objectifs. Or, tout notre christianisme évangélique va dans un sens opposé. Représentation de Jésus-Christ. Alors ça, c'est sans doute le point clé sur lequel il nous faudra revenir. Avec la différence entre Nouveau et Ancien Testament, mais de cela j'ai déjà parlé. Est-il juste de penser que le ministre, celui qui apporte la parole, celui qui dirige l'Église, représente Jésus-Christ? C'est une idée clé chez les catholiques. Elle va sans aucun doute dans le sens d'un accent sur l'ordre, un privilège de représentation. Il faut être établi pour ça, avoir en quelque sorte un mandat pour avoir le droit de dire « représente ». C'est l'argument principal, nous pourrons y revenir à la fin de la dernière séance, contre toute idée d'admission de femmes à la prêtrise pour les catholiques. Et pour certains anglicans évangéliques aussi. Pas question, le prêtre représente Jésus-Christ. Jésus-Christ est de sexe masculin. Donc il ne peut pas y avoir de femmes dans ce ministère. La parole de Pierre, qui évoque la tâche pastorale des anciens, et qui dit tout de suite, et alors le souverain pasteur, les brebis vous remettra la couronne, suggère qu'il y a un rapport de représentation. Vous êtes des pasteurs, il est le souverain pasteur, donc vous le représentez en quelque sorte. Mais ce n'est qu'une suggestion, ce n'est pas quelque chose de plus net. Mais en fait, c'est une suggestion qui va dans ce sens. Et bien sûr, l'apôtre représente Jésus-Christ. Christ parle par moi, dit Paul. Donc, il y a quelque chose qu'on peut relever dans l'Écriture qui va dans le sens de l'idée de représentation. Mais est-ce que c'est si marqué après tout? Et ne faudrait-il pas dire qu'il y a aussi dans le Nouveau Testament l'idée que tout chrétien, toute chrétienne, indépendamment du sexe, représente Jésus-Christ pour les autres? Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, et je pense que la meilleure exégèse, c'est qu'il s'agit des disciples. Les petits sont partout ailleurs les disciples de Jésus. Donc, de ces petits, les disciples qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, nous nous représentons le Seigneur les uns pour les autres. Alors, ce n'est peut-être pas un privilège seulement du ministère. Et du coup, alors on se reporte, même avec cette notion de représentation, dans la mesure où on l'admet, on se reporte du côté du pôle frère, fraterniste. Vous voyez comment cette notion de représentation de Jésus-Christ par les ministères est intéressante et en même temps délicate à gérer. Alors, je ne résous pas toutes les questions, je ne tranche pas tout. Je vous mets dans les deux dernières lignes de la page la conclusion vers laquelle je tends, qui est une conclusion un peu médiane en l'affaire, entre les tendances vers l'ordre et vers l'accent sur la fonction. Voilà, c'est l'heure, donc je ne voudrais pas trop entamer sur la pause, même si nous avons manqué quelques minutes au début.